Bienvenue sur le podcast de Parole de Plume, le podcast de conseils et motivation pour les auteurs et acteurs du livre. Je m'appelle Marie, je suis rédactrice web, chargée de communication et autrice. Via Parole de Plume, je souhaite lier ma passion pour l'écriture avec mes compétences en communication. Depuis plus d'un an déjà, je gère le compte Instagram Parole de Plume, où chaque semaine, je délivre mes conseils en écriture, communication et où je partage également l'avancée de mes projets d'écriture. J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de Abigail Michel, autrice jeunesse, notamment de Chasseur d'éclairs qui est disponible chez Hachette Roman. Abby, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui, je t'appelle Abby hein, parce que voilà...
Pas de problème.
Après les imaginales, on a plutôt pris l'habitude de se surnommer, donc voilà. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui.
Et ben merci à toi de l'invitation, c'est très chouette.
Je t'en prie, avec plaisir. Du coup, bon, je t'ai présenté très brièvement. Est-ce que du coup tu veux bien te prêter à l'exercice de la présentation pour que nos auditeuristes te connaissent ?
Avec plaisir, c'est un exercice qu'on aime tous. Oui. Du coup, je m'appelle Abigail Michel, je suis l'autrice de Chasseur d'éclairs qui publie chez Hachette Roman, comme tu as dit. Et parallèlement à mon activité d'autrice, je travaille dans le cinéma d'animation en tant que chargée de production, donc tout ce qui est films, séries d'animation, etc. Voilà, j'ai 27 ans, je suis du signe bélier, je suis gauchère et j'en suis fière, voilà. Et que dire de plus ? Pas grand-chose.
D'accord, ok. Bon, moi c'était rapide et efficace pour te situer. Pour continuer un petit peu dans les présentations et pour situer qui tu es, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours dans l'écriture ?
Ouais, alors bon, je pense que comme beaucoup de gens, je pense que j'ai commencé à écrire, enfin à inventer des histoires depuis que je suis petite. J'ai beaucoup fait de bandes dessinées, genre je dessinais beaucoup quand j'étais au collège et tout, l'écriture et le dessin ont toujours été assez liés. Mes premières histoires, je crois que les premières histoires que j'ai faites, c'était inspirées de Spirit, le dessin animé. Ma deuxième histoire, c'était inspirée des Witch. Enfin voilà, j'ai fait un peu des films. Et sinon, après, l'idée de Chasseur d'éclairs, elle est quand même assez vieille, dans le sens où je l'ai eue au collège, lycée. Et je l'ai fait plusieurs phases de réécriture. Je l'avais soumis un peu à Gallimard. J'avais participé notamment au concours du premier roman de Gallimard, celui où Christelle Davos a gagné. Donc voilà, donc à l'époque, c'était...
Oui, effectivement.
Ça remonte un peu. Ouais. C'était pas très qualitatif, forcément, enfin, ce que j'ai écrit par rapport à maintenant. Et ensuite, en décembre 2021, si je dis pas de bêtises, je suis allée au Salon de Montreuil. Et c'est là que j'ai rencontré, du coup, celle qui est devenue mon éditrice au stand de Hachette. Ouais. Et donc voilà, on avait parlé un petit peu, j'avais dit que j'écrivais, et donc elle m'a proposé sa carte pour que je lui envoie, et le texte a plu, et voilà, et la suite a fait...
La suite fait qu'on est là aujourd'hui.
C'est ça.
D'accord, ok. Et donc on reviendra un petit peu sur le parcours dans l'édition, parce que je me souviens qu'une des toutes premières fois où je t'ai parlé justement sur les réseaux, bah, tu m'as raconté cette fameuse journée de Montreuil, on en reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais pour commencer, est-ce que tu veux nous présenter Chasseur d'éclairs ?
Ouais, un exercice sympa aussi.
C'est la dernière question de présentation.
Non, mais ça va, c'est à force on est rodé un peu. Donc du coup, Chasseur d'éclairs, c'est une trilogie de fantasy jeunesse, mais ça peut, enfin, c'est à partir de 13 ans et ça peut se lire après. Et donc c'est vraiment un récit d'aventure et donc ça se passe dans un monde où les océans ont disparu et où les gens du coup ont développé tout un commerce autour de la chasse aux éclairs. Donc ils ont des navires volants, etc. Ils ont appris à voler. Et c'est l'histoire de Alric qui est un ado. Et l'histoire démarre, en fait, c'est le fils d'un des capitaines chasseurs d'éclairs. Et son père est censé revenir, du coup, au port d'une de ses missions, et il revient pas. Donc il a disparu, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc Alric, il va se joindre à une expédition pour le retrouver, avec Drax, son griffon de compagnie, voilà, qui est une grande mascotte, apparemment, qui est devenue une grande mascotte. Et donc voilà, donc c'est un récit vraiment d'aventure, donc il va rencontrer d'autres capitaines, il va y avoir des histoires de piraterie, beaucoup d'exploration, de... côté épique aussi, voilà, des captures de foudre, des batailles avec des pirates, etc. dans les airs, voilà. Un petit côté steampunk et une petite vibe un peu à la planète au trésor, c'est très dur à dire.
Ouais. Et comment tu t'y es prise pour construire cet univers-là qui a l'air quand même très riche, voilà, comme tu dis, il y a des voyages, de l'aventure, est-ce que ça, c'est un process qui s'est fait un peu tout seul dans ta tête, ça t'est un peu tombé dessus ou tu as essayé
de construire et de réfléchir ton univers ou ça t'est tombé dessus?
Je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où moi, je suis toujours une grande lectrice de l'imaginaire. J'ai vraiment toujours adoré ça. Et donc, au départ, j'ai vraiment créé un univers qui, moi, me faisait rêver, qui, moi, me faisait vibrer. Genre, j'ai toujours rêvé de voler, par exemple. Et donc, voilà, des vaisseaux volants, des griffons, j'adore ça. Bon, j'aime bien les dragons aussi, mais du coup, les griffons, c'est y a un petit truc en plus. Oui. Et donc, je pense que j'ai vraiment, au début, mis les ingrédients que moi, j'aimais, qui, moi, me faisaient vibrer. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, que j'ai avancé, que j'ai fait des premiers jets de réécriture, bah, du coup, il y a des questions un peu plus de cohérence d'univers, etc., qui sont posées, de politique, de religion. Voilà, j'ai beaucoup creusé autour. J'ai pas forcément tout mis dans l'histoire, mais on va dire qu'il y a une base assez cohérente et réfléchie qui soutient tout ça, quoi.
Ok, d'accord. Je te remercie pour ces petites précisions. Et donc, du coup, moi, j'étais curieuse qu'on revienne sur ton parcours dans l'édition. Donc, de cette fameuse journée à Montreuil jusqu'à la sortie de ton tome 1, puisque pour l'instant, on parle du tome 1. Est-ce que déjà avant, enfin, tu nous as parlé du concours Gallimard, mais est-ce qu'avant la signature de ton contrat chez Hachette et donc cette rencontre avec l'éditrice, tu avais déjà pour ambition d'essayer de trouver une maison d'édition à ton roman ou voilà, pas forcément?
Si, ça a toujours été un de mes objectifs. Et je voulais plutôt une grande maison, quoi. Donc j'avais Gallimard en tête parce que, bon, toi tu vois ma bibliothèque parce qu'on a une caméra, mais j'ai que du Gallimard un peu. Enfin, en fait, c'était le numéro 1 de littérature fantasy, jeunesse, etc. Donc j'en ai, enfin, je veux dire Harry Potter, tout ça, tout le monde connaît. Donc c'était vraiment ma maison de référence. Et après, du coup, quand en grandissant, j'ai vu qu'il y avait d'autres maisons et tout. Puis pour Hachette, c'était chouette aussi. J'aime beaucoup leur couverture. Et le feeling est très bien passé, du coup, quand j'ai rencontré mon éditrice à Montreuil. Donc,
d'accord. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse rencontre avec l'éditrice? Parce que c'était vraiment, je crois, mais un pur hasard. Parce que autant cette année, j'ai le souvenir, l'édition de Montreuil 2022, que Hachette Roman avait mis un message sur son compte Instagram en disant qu'il fallait ne pas hésiter à aller rencontrer les éditrices sur le stand pour parler des projets des uns et des autres. Néanmoins, toi, ça s'est pas passé comme ça. Il me semble que t'es pas directement allé voir les éditrices sur le stand. Enfin,
non.
Voilà, ça t'est tombé dessus entre guillemets, quoi.
En fait, en gros, donc j'étais avec une amie et on a fait un peu le tour et tout et on s'était dit bon, faut qu'on arrive un peu à parler, à voir un peu ce qui se passe, à parler aux gens parce que du coup, on est deux, c'est toujours plus, enfin, on a toujours plus de force ou plus de courage quand on est deux à faire des choses. Et donc, on avait fait un peu un tour pour voir qui y avait, puis. Et en fait, au final, on a vu qu'il y avait une autrice, l'autrice de La Ville sans vent, Léonore de Villepoix, qui était en dédicace sur le stand de Hachette, parce qu'on était là le vendredi après-midi, donc c'est bien, il n'y avait pas trop de monde encore. Et comme son livre, j'avais flashé sur la couverture, et du coup, on a fait la queue, on l'a pris, on a fait la queue pour faire la dédicace. Et du coup, on a parlé un petit peu avec l'autrice et tout, puis le feeling passait bien. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, il y a une personne qui s'est assise à côté de Léonore. Et qu'on a parlé un peu, et en fait après elle s'est présentée, bon bah voilà, moi je suis responsable éditoriale en plus, elle n'était pas juste éditrice, et donc on a parlé un petit peu, donc le sujet de la conversation est arrivé sur le fait qu'on écrivait aussi, et donc elle a demandé un peu qu'on pitche nos romans, et donc on l'a pitché, et donc elle m'a donné sa carte pour que j'envoie, donc en fait c'est venu assez naturellement quoi, on lui a parlé sans savoir forcément qu'elle était éditrice d'abord, et voilà, et du coup après donc je crois que le soir même j'avais préparé un peu déjà parce que j'avais fait j'avais fait la démarche de me professionnaliser pour être publiée un peu avant, donc j'avais vraiment, je m'étais renseignée sur comment s'adresser aux maisons d'édition, le mail de motivation on va dire, enfin la note d'intention, toutes ces choses là donc mon mail était déjà prêt, enfin une base quoi, donc le soir je suis rentrée, j'ai préparé tout, à 22h je lui ai envoyé, oui on s'est rencontrés, ça l'avait dit, resitue moi qui tu es, parce qu'elle voit forcément passer beaucoup de monde. Et donc, j'ai envoyé, et donc c'était début décembre. Et au final, ça a été assez rapide, je crois, parce que fin janvier, j'ai eu un mail de mon éditrice qui disait que Chasseur d'éclairs avait reçu un retour favorable du comité de lecture. Donc, c'était pas un oui, mais déjà, j'étais... En plus, je me souviens, j'étais au téléphone avec ma mère à ce moment-là pour complètement autre chose, et devant mon ordi, parce que c'était à 14h, donc j'allais reprendre le boulot. Et là, je vois le mail qui arrive, et donc j'ai complètement buggé. Je savais pas si je devais le lire ou, enfin bref. Et au final, donc j'ai vu ça, donc c'était très chouette. Et elle m'avait demandé du coup des infos sur la suite parce que j'avais dit que c'était une trilogie, donc elle voulait savoir qu'est-ce que j'avais écrit de la suite, si je pouvais lui envoyer le tome 2 ou alors à défaut un synopsis du 2 et du 3, etc. Ouais. Elle voulait savoir si les droits étaient toujours disponibles, tout ça. Donc j'ai répondu. J'ai envoyé le tome 2 qui, à l'époque, était en cours de bêta lecture, donc vraiment en correction. Donc j'étais un peu angoissée, je me disais, parce que j'aime pas envoyer des choses que j'estime pas finies. Mais bon, là, elle me l'avait demandé, donc j'avais précisé, elle a dit si, envoie et tout, donc j'ai envoyé. Ils ont étudié tout ça, elle est revenue vers moi assez vite pour me demander, pour me dire, je crois qu'elle m'avait appelée après, pour me dire que vraiment, genre, ils étaient intéressés et tout, mais que donc elle voulait défendre mon texte et tout, et donc elle voulait savoir si je pouvais retravailler les trois premiers chapitres en suivant certains de ses conseils. Donc je l'ai fait, je crois que sous deux semaines, j'ai renvoyé les trois chapitres. C'était assez stressant d'ailleurs comme exercice quand tu sais que tu te dis que ça joue un peu. Et voilà, je pense que c'était aussi une manière de... Oups. Par mes écouteurs, une manière de voir si j'étais capable, enfin, tu vois, si j'étais pas une diva qui dit « je ne touche pas à la moindre virgule », ou si au contraire j'étais capable de retravailler et puis de suivre un peu les conseils. Et donc j'ai renvoyé, et suite à ça, j'ai eu le fameux mail « chasseur d'éclairs, offre de publication et tout », j'étais dans le RER, c'était la catastrophe, je ne pouvais pas crier. Donc, et voilà. Et donc après, il y a eu tout le travail de discussion... Et puis tout le travail autour de la couverture et des visuels aussi, parce que j'ai la chance d'avoir quand même tout un, dans le premier tome, tout un hors-texte, genre 8 pages en couleur, avec des illustrations de mes personnages et de la carte et tout. Donc vraiment, ils ont fait un super boulot là-dessus. Et je me souviens du déjeuner que j'ai eu avec mon éditrice qui m'a dit « voilà, nous on aimerait faire ça, voilà, il faut qu'on voit, il faut qu'on en discute si c'est possible et tout ». Et puis donc après elle m'avait dit « c'est bon, on peut partir, full package, toutes les illustrations et tout ». Donc vraiment, c'était super chouette aussi. Et puis comme je travaille dans le milieu de l'animation, donc avec des concept artistes, etc., c'était super chouette parce que c'était un moyen d'avoir un pont un peu entre mes deux métiers.
Oui.
Donc vraiment, c'était top. Hyper intéressant.
Oui, parce que je trouve que tu n'habites pas très très loin du siège d'achat.
Oui, à 20 minutes à pied.
Ce qui vous permettait, il me semble, j'ai déjà vu passer des stories où en gros, dès qu'il y avait un petit élément qui coinçait ou que, voilà, plutôt que de... galérer de ton côté, en gros tu prenais tes petites jambes et ton ordi et tu partais chez Hachette, quoi.
Ouais, c'est ça, bah, c'était souvent, puis c'est chouette aussi parce que tu les vois en vrai plus qu'en visio, donc voilà. Bon, des fois bien sûr c'est un coup de fil, par exemple hier j'ai reçu la première esquisse de la couverture du tome 3. Et donc j'ai parlé en direct avec le directeur artistique de Hachette, puis donc on s'envoyait des images, des trucs, ah c'est trop bien ça, est-ce que c'est comme ça, puis au bout d'un moment il a dit bon vas-y c'est mon numéro, appelle-moi, et donc on s'est appelé et voilà, donc c'était vraiment chouette. Elle va être incroyable, voilà. Je tease très longtemps à l'avance, mais je l'aime beaucoup.
Oui. Bah, ouais. Si elle est dans la continuité des autres, il n'y a pas de raison.
Ouais.
Je t'avoue, je préfère la couverture du tome 2, donc si on va graduellement...
Ouais, bah, d'ailleurs, en parlant de ça, moi, je me souviens que quand j'ai vu la couverture, donc la toute première esquisse de la couverture du 1, je l'aime beaucoup, hein, mais sur le moment, j'ai eu un ressenti bizarre, parce qu'en fait, je pense que c'était la première fois que je voyais mes personnages, enfin mon univers représenté.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'avais fait un peu mes fanarts, etc. J'avais des copines qui dessinaient, qui m'avaient fait des fanarts de mes personnages. Mais là, c'était vraiment genre un professionnel qui faisait une image de mon roman. Et du coup, ça m'a fait très bizarre, en fait. Je n'arrivais pas à interpréter ce que je ressentais. Donc après, on a discuté et au final, je l'adore, cette couverture. Mais là, pour le 2, quand j'ai vu la première version, tout de suite, je l'ai adorée. Parce qu'en fait, il y avait plus ce truc de « Attends, il faut que je m'habitue, du coup, que c'est quelqu'un qui va représenter mes personnages, etc. » Donc vraiment, j'ai un coup de foudre pour la couverture du 2. Et la 3, j'ai failli pleurer en la voyant, donc...
Ouais, ça va, alors.
Ouais. On va graduellement. C'est très chouette.
Donc, bah, tant mieux, alors. Tant mieux. Donc, maintenant, on va justement parler un petit peu des suites et du tome 2, puisque, voilà, j'imagine... J'ai déjà fait certains podcasts que je remettrai du coup en barre d'infos pour que les personnes puissent écouter. Mais voilà, ton tome 2 sort assez savant sous peu, donc autant faire le focus maintenant sur ce qui est aujourd'hui. Comment tu te sens déjà à l'approche de cette sortie? Alors en plus, je crois qu'il y a eu un petit couac parce que le roman devait sortir cette semaine.
Ouais, le 27 septembre, ça a été décalé d'une semaine pour des soucis d'imprimeur.
D'accord.
Donc ça sort le 4 octobre.
D'accord, donc voilà, alors comment tu te sens à l'approche de cette sortie qui, pour nous là, on est le 21 et dans 15 jours à peine, donc...
Je pense que je réalise pas, comme pour le tome 1 en fait, je réalise pas, donc j'ai hâte, je pense que j'ai un peu peur aussi, parce que voilà, c'est une suite, donc tu dis que même ceux qui ont aimé le 1, tu sais pas comment ils vont réagir sur le 2, mais c'est assez étrange, je pense que vraiment je réalise pas, parce que j'ai toujours une tendance à, comment dire, le tome 2 il est derrière moi maintenant, enfin, je sais pas comment dire, je l'ai fini, le bon à tirer il est déjà fini, etc., et du coup j'ai pris du recul dessus, là je suis sur le 3, sur la fin du premier jet, et donc quelque part c'est, je l'ai accouché il y a un petit moment maintenant, donc la douleur, on va dire, est passée. Enfin, la douleur, non, c'est la joie et la douleur, on va dire, est passée.
Oui, oui.
Et du coup, je sais pas trop. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'avoue.
Bah, d'un côté, tant mieux, au moins, t'es pas trop stressée ou...
Non, ouais, complètement. Non, et puis, c'est satisfaisant aussi de sentir une page qui se tourne. Il y a un truc aussi un peu stressant, des fois, quand tu sais que tu vas figer ton texte. Ça bougera plus jamais. Et en même temps, c'est un peu cathartique aussi. Ça y est, tu peux passer à autre chose. Tu l'as fini, il est figé dans le temps, à un instant T. Tes mots, ton histoire est là, et tu peux tourner la page et passer à autre chose. Donc, c'est un peu un accomplissement, mais...
Si, c'est ça.
Ouais, voilà.
Là, tu dis que tu es sur la fin du premier jet du tome 3.
Ouais.
Ça fait des années que cette histoire t'accompagne, finalement, parce que tu dis que tu as commencé à y penser quand tu étais au collège. Et comme tu viens de le dire, au final, une fois que le roman est publié, il est figé dans le marbre, pour le coup, et la page va se tourner. Tu as prévu 3 tomes, donc en théorie, la page Chasseur d'éclairs va se tourner le jour de la publication du tome 3. Je vois l'émotion dans ton regard, alors les auditoristes ne le verront pas, mais moi je le vois, j'imagine qu'effectivement ça te fait quelque chose, donc c'est pour ça que je retranscris ce que je vois, mais du coup comment tu te sens, comment tu le vis, est-ce que tu te dis, en fait j'ai envie de faire un spin-off ou un tome 4 pour que ça dure, ou est-ce que y a une page qui va se tourner et tu commences à envisager autre chose?
Alors, un spin-off, je pense pas. Enfin, peut-être plus tard, mais je pense qu'il y a un côté où j'ai hâte et j'ai peur en même temps. Enfin, ça rejoint tout de clore, parce que quand même, c'est une histoire qui est avec moi depuis très longtemps. Donc, il y a quelque part où, une part de moi qui a hâte de tourner définitivement cette page. Et en même temps, tu vois, là, j'approche de la fin du premier jet. Bon, même si derrière, on sait qu'il y a plein de réécriture, mais c'est quand même une étape. Et je me rends compte que, je sais pas, il va me rester 4 chapitres. Je commence à galérer là. Pourtant, j'aime bien ce que j'écris et j'aime ce que j'ai écrit et ça va être cool. Mais je sais pas, il y a un truc où je sens que je veux freiner des cas de fer, comme si je sentais la fin qui approche et que je voulais pas. Mais je sais pas. En tout cas, c'est sûr que je pense à d'autres projets derrière et j'ai hâte aussi de repartir justement sur des bases complètement neuves, de voir un peu qu'est-ce que je veux raconter maintenant. Mais c'est sûr que ça va me faire bizarre. J'ai prévu de faire un post à chaud au moment où j'aurais mis le dernier point du tome 3 pour dire « Bon, qu'est-ce que je ressens ? Je ne sais pas.
» Je ne sais plus quoi faire de ma vie, ça y est.
C'est ça, c'est ça, ouais. Mais ouais, donc c'est ça, c'est une fin douce amère, quoi. Enfin, voilà. C'est un mélange de joie et de tristesse.
D'accord. Et t'as quand même, tu sens envie de bosser sur d'autres projets derrière. Enfin, ta carrière d'autrice ne va pas s'arrêter avec Chasseur d'éclairs.
Ah non, du tout. J'ai beaucoup trop d'idées, comme beaucoup de gens qui écrivent. Et je pense que je sais sur quoi je vais partir, mais bon, pour l'instant, c'est très... ça restera a priori de la fantasy, pour l'instant. C'est quand même mon domaine de prédilection. Mais ouais.
D'accord. Ok. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'écriture pure, notamment avec le tome 2. Est-ce que tu as ressenti des différences d'écriture entre même tes tomes 1, 2 et 3 ?
Alors, entre le 1 et le 2, pas vraiment, je pense. Si c'est que les corrections du 1 m'ont énormément appris. Et du coup, j'ai pu les appliquer dans le 2 directement, donc gagner du temps et gagner en qualité plus vite. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a forcément un gain de qualité entre le tome 1 et le tome 2. Et bon, forcément, du coup, avec le 3, parce qu'on n'arrête jamais de grandir et de s'améliorer. Et c'est aussi pour ça que c'est bien, des fois, de mettre un point final et une histoire et de tourner, parce que sinon, on pourrait sans arrêt la réécrire et la corriger. Donc voilà. Par contre, pour le 3, ça a été un peu différent. Parce que même si j'avais un bon 2/3 de premier jet au moment où il y a eu la discussion avec Hachette, enfin où j'ai signé avec Hachette, quand j'ai dû m'y remettre pour de vrai, j'ai tout jeté. Enfin voilà, il est toujours là, je m'inspire, mais tellement de choses avaient évolué. Enfin, c'est-à-dire que j'avais toujours la trame principale de mon histoire, je savais comment ça allait finir, mais on va dire que tout le reste avait énormément bougé, etc. Moi j'avais évolué, les personnages avaient évolué aussi, donc je suis vraiment repartie de zéro. Et du coup, j'ai eu un peu la pression, une pression que je me suis mise toute seule, je précise, de devoir créer avec une deadline. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'avais que des corrections à faire sous deadline, ce qui est quand même un gros boulot, mais c'est pas du tout le même exercice que de créer de zéro. Et donc voilà, et je pense que du coup, au début, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi avec le 3 parce que je suis quelqu'un de très architecte et du coup, je planifie beaucoup. Et c'est-à-dire que pour mon tome 2, je crois que mon plan, bon là j'avais un peu abusé, mais mon plan est de faire 80 000 mots. Donc c'était la taille d'un roman, voilà.
Ah ouais.
Voilà, mais après voilà, il y avait
moi,
plein de choses.
Mes plans, ils font 4 lignes sur un cahier, quoi.
Ouais, bah on a différents types, mais tu vois, ça m'a joué aussi des tours, parce que du coup, mon premier jet du tome 2, c'était un mastodon, je crois, il faisait 156 000 mots. Donc après, il y a eu beaucoup de coupes, etc. Et donc voilà, c'était un peu un extrême dans lequel j'ai évité de retomber.
Oui.
Mais du coup, dans le 3, j'ai voulu aller un peu dans l'extrême inverse, à me dire... perds pas trop de temps à trop planifier, vas-y, jette-toi tout de suite dans l'écriture. Genre, j'avais planifié un truc beaucoup plus court, et en fait, j'ai complètement été bloquée. Parce qu'on va dire, pour le tome 2, par exemple, avec mon plan, c'était pendant le confinement en plus au début, après, enfin, je l'ai écrit, je pouvais écrire un chapitre par jour. Parce que je trouve qu'à ce moment-là, je travaillais pas, donc ça allait super vite, quoi. J'aurais pu le finir en un mois, on va dire, en écrivant toute la journée. Et là où le tome 3, je mettais une journée à écrire un paragraphe parce que je sais pas, je savais pas. Enfin, j'avais un plan, mais il était trop peu détaillé pour moi.
D'accord.
Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps au début. Et puis, entre-temps, du coup, il y a eu les vacances, je suis partie cet été. Et en fait, je me suis dit, bon, arrête de paniquer, de partir courir partout comme une poule sans tête, là. Reconcentre-toi, refais ce que tu sais faire. Et donc, quand je suis revenue de vacances, bah, j'ai repris mes habitudes. J'ai refait un plan, moins détaillé que celui du 2, quand même, mais assez détaillé quand même, avec vraiment toutes mes scènes, tout mon chemin de fer. Et là, c'est bon, c'est reparti comme sur des roulettes. Et surtout, il y a un truc que je fais aussi, c'est que je bosse sur mon plan jusqu'à ce que j'ai hâte d'écrire chaque scène.
D'accord.
S'il y a une scène qui m'ennuie, où je me dis, ah, il faut que je passe par là pour expliquer ci ou ça, je me dis, ça va pas, trouve autre chose. Trouve quelque chose qui te donne envie d'écrire cette scène, remanie-la, repense-la, supprime-la si tu peux faire une ellipse, jusqu'à ce que vraiment chaque scène, j'ai trop hâte de l'écrire. Et du coup, c'est comme ça que derrière... ça coule tout seul, bon, plus ou moins, quand j'écris le tome 3. Donc, voilà. Mais au moins, au final, ça m'aura appris que non, je ne suis pas une jardinière. Enfin, en tout cas, pour la fantasy, c'est pas... J'aurais testé, c'est pas pour moi.
Ok, effectivement. Et est-ce que est-ce que avoir travaillé avec une maison d'édition, ça t'a aidé ou ça a changé ta manière d'écrire ou au moins d'aborder un roman, ou alors tu es toujours fidèle à ce que tu faisais avant?
Je pense qu'au fond, moi, je suis toujours fidèle à ce que je faisais avant. Par contre, ça m'a appris à aller à l'essentiel, à resserrer vraiment mon texte ou mon intrigue, à trouver le mot ou la phrase juste, par exemple.
Oui.
Et à lâcher prise aussi un peu sur le texte. C'est-à-dire que bah, des fois, il y a, je sais pas, 2-3 passes de correction avec la maison, et après, c'est fini. Et du coup, t'es beaucoup plus peut-être structuré. Enfin, je suis structurée de base quand j'écris, mais quand t'écris toute seule avec tes deadlines et tout, tu peux avoir tendance à... voilà, à réécrire 5 fois un chapitre et tout, alors que voilà, quand tu bosses avec une maison, bah, des fois, tu as des étapes, des délais, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retravailler un truc, enfin, il y a toujours discussion, une discussion est toujours possible, je veux dire, mais voilà, ça a appris à vraiment structurer et avoir mon texte de manière encore plus professionnelle que ce que je pouvais voir avant, quoi.
D'accord.
Ouais. Mais le fond n'a pas changé, on va dire, ça m'a juste donné des outils en plus, quoi.
Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais du coup que ton tome 2 a de différent par rapport à ton tome 1 ?
Je dirais qu'il est plus sombre, plus mature aussi. Enfin, forcément, du coup, parce que donc, c'est un récit d'apprentissage parmi tout le reste. Et donc, Alric, mon personnage, grandit. Et donc, forcément, bah, le tome 2, souvent, c'est un peu le moment où plein de choses pas cool peuvent arriver. Beaucoup de twists et de révélations aussi. J'ai plusieurs points de vue aussi dans mon tome 2. Là où dans le tome 1, on ne suivait que Alric. Là, on suit Alric et quelques autres personnages, même si Alric reste le principal. Voilà. Et il y a toujours autant de voyages et d'épicness dans l'histoire. Et je pense qu'après, là où le 1 pouvait quelque part un peu se suffire à lui-même, enfin, même s'il y a un fil rouge qui est sur les 3, mais on va dire le 1, c'était une aventure qui s'est clôturée à la fin du 1. Le 2 et le 3 sont vraiment plus étroitement liés, quoi.
D'accord.
Un peu comme dans Pirates des Caraïbes, en fait. Le 1, il suffit à lui-même, et le 2 et le 3, c'est lié.
Effectivement, c'est une bonne comparaison.
Oui, j'aime bien.
Ouais. Tu sais bien vendre ton livre, c'est bon. Et tu l'as peut-être déjà un petit peu dit, mais qu'est-ce que travailler avec une maison d'édition, bah, notamment Hachette, parce que bah, des fois, c'est vrai que d'une ME à l'autre, on peut ne pas forcément apprendre les mêmes choses, mais donc du coup, en l'occurrence, qu'est-ce que travailler avec Hachette Roman t'as appris? Voilà. Qu'est-ce que toi, t'as tiré du travail que t'as fait avec eux?
Bah c'est la question que t'avais posée juste avant, non?
Je crois. Ouais. Je vais demander si travailler avec une maison d'édition changeait ta manière.
Ah, de... avec Hachette particulièrement.
Qu'est-ce que eux ils t'ont appris?
Ce que j'aime beaucoup chez Hachette, et on dirait que je suis sponsorisée, mais pas du tout.
T'inquiète, moi aussi.
Oui, en plus, c'est vrai. Je suis bête. C'est... Enfin, j'aime beaucoup leur, le côté... Enfin, j'aime les gens, en fait, avec qui je travaille. Ils sont vraiment, ouais. Ils sont vraiment chouettes, quoi. Et comme j'ai eu aussi l'occasion, enfin, l'opportunité de vraiment les voir, pas juste en visio, c'est, tu te rends compte que c'est... Même si c'est... Bon, c'est une industrie, on appelle ça l'industrie du livre, donc c'est normal. Oui. Mais en tout cas, pour les gens avec qui je bosse, qui achètent, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Qu'on est tous dans le même bateau? Je sais pas. Sans... Oh, je viens de faire une référence sans faire exprès.
C'est beau.
Mais ouais, et qu'en fait, il n'y a pas de... Parce qu'on peut avoir aussi un peu l'image... quand tu démarres, ou même peut-être dans certaines maisons d'édition, d'un espèce de rapport de force.
Ouais.
Et de l'éditeur par rapport à l'auteur, etc. Et en tout cas, moi, dans mon cas, c'était vraiment une collaboration, quoi.
Ouais.
Et c'est super chouette, bah, ne serait-ce que ce que je te disais, quand je parle avec le directeur artistique pour la couverture, oui. Et tout, c'est, tu vois vraiment que c'est un échange équilibré des deux côtés, quoi. Donc, bien sûr, après, il y a des contraintes, plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'est un aspect qui me plaît beaucoup, quoi.
D'accord. Ok. Et donc, cette dernière année, enfin, l'année où est sorti donc Chasseur d'éclairs, tu as eu l'occasion de faire plusieurs salons, des dédicaces, tu as un petit peu bougé et tu as pu promouvoir ton roman. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un super souvenir à nous partager concernant l'année qui vient de s'écouler?
Alors, les Imaginales, c'était du coup, c'était mon premier salon, ma première dédicace, mon premier salon. Et quand j'en ai parlé du coup aux gens, ils m'ont dit « Waouh, tu commences direct par les Imaginales, c'est fou, c'est trop bien !» Et j'avoue, c'était assez incroyable. Mais étrangement, je pense que ma meilleure anecdote n'est pas aux Imaginales, mais à une dédicace que j'ai fait après à Saint-Nazaire.
Ouais.
En l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là parce que il faisait super beau ce week-end-là, donc les gens étaient à la plage et pas ouais. Dans les librairies. Mais la libraire que j'ai rencontrée était super sympa. Enfin, j'ai quand même passé une super journée. Et il y a quand même une lectrice qui a fait 3 heures de route rien que pour venir me voir. À Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'avait découvert sur TikTok, je sais pas, 2 semaines avant.
Ouais.
Et du coup, elle m'avait dit « Ah, c'est quoi tes prochaines dédicaces et tout ?» Et en fait, venais de faire un post en disant « Du coup, je serai à Saint-Nazaire à telle date, etc. » Elle a dit « Ah, vas-y, c'est pas loin de chez moi, j'y vais. » Et en fait, le pas loin de chez elle, j'ai compris après que c'était 3 heures de route.
Oui, alors on n'a pas tous la même notion de pas loin de chez moi. Hein. Est-ce que
c'est
moi,
ça.
Je serais pas... J'ai beau avoir très envie de rencontrer certaines personnes... à part les gros salons, alors je fais 3 heures de route pour aller à Montreuil, j'ai fait 5 heures, 6 heures de route pour aller aux Imaginales, mais parce que t'as le salon, t'as le contact.
Et puis tu vois plein de gens, ouais.
Et tu vois plein de gens. Je t'avoue que pour une personne, je ne suis pas sûre de faire 3 heures de route, mais par contre, c'est vrai que c'est assez dingue parce que moi, quand j'ai fait le pop-up store de Bookmark au mois d'avril, il y a une fille, elle était avec son copain qui, du coup, a confirmé, tu sais, à la manière du copain excédé qui vient de se taper la route.
Uh-huh.
Ils avaient fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, que pour me voir.
Ah ouais, c'est ouais,
et j'étais en mode oh
mais oui c'est fou mais... bah, elle était avec son copain aussi tu vois
c'était la même
je sais peut-être je sais pas et c'était son copain qui avait dit oui 3 heures de route et là j'ai compris j'ai dit, ah oui c'était pas genre 40 minutes de route et tout
non
et donc c'était fou et du coup j'avais croisé après le patron du Cultura du coup dans lequel j'ai dédicacé
ouais.
Qui m'a dit je viens de croiser une lectrice sur le parking, elle est en train de sauter genre sur place genre trop heureuse et j'ai vu qu'elle avait votre livre dans ses mains quoi. Donc c'était juste
trop mignon.
Ouais, c'était fou. C'était assez fou.
Ouais, vraiment fou. Effectivement, c'est une très très belle anecdote. Très mignon. Moi j'ai fini avec ma liste de questions. Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'ajouter concernant ton roman ou l'écriture en général? Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec nous?
Je sais que je pense que parmi les gens qui t'écoutent, il y en a plein qui écrivent ou qui aimeraient être publiés un jour. Et,
ouais.
Et du coup, je pense que le plus important pour ces gens-là, c'est vraiment de genre ne pas lâcher. Enfin, il y a un truc que je dis souvent, c'est que on a tous des rêves. Et en fait, comment dire, faut se donner le moyen d'accomplir ses rêves. Dans le sens où, par exemple, moi, j'ai genre une liste de rêves dans ma vie. Bon, à part devenir un oiseau, ça, je sais que c'est pas possible, tu vois. Genre apprendre à voler, ça marche pas. Mais pour tous les autres,
je suis sûre qu'un jour, on trouvera une solution. Maintenant, on va sur la lune, hein.
Oui, c'est vrai. Mais bon, peut-être que je serais morte à l'époque. Enfin, à ce moment-là. Mais du coup, tu vois, ce que je dis, c'est que j'ai genre une série de rêves et genre j'imagine ça un peu comme des interrupteurs. Et en fait, le premier de la liste, genre j'active l'interrupteur, tu vois, je transforme de rêve en objectif. Et pendant longtemps, d'accord, du coup, mon rêve, c'était d'être publié. Et il y a quelques années, maintenant, je me suis dit, bon, en fait, c'est un objectif. Et du coup, tu sais, rien quand tu transformes un rêve en objectif, tu dis, OK, bon, il faut que j'aille là. Qu'est-ce que je fais pour atteindre ce truc-là? Et donc, ça devient beaucoup plus concret. Oui. Et une fois que tu atteins ce rêve-là, bah, tu prends le rêve d'après, clac, tu le transformes en objectif, tu vois, et tu rebosses. Et du coup,
Oui, tu te donnes les moyens, quoi.
Voilà, tu te donnes les moyens. Et donc, je pense qu'on est tous... Il y a des gens qui ont été capables de faire des trucs de fou. Et je pense qu'il faut se dire, bah, si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi, quoi. Et il faut pas... On n'a qu'une vie. Et donc, faut tenter. Enfin, au pire, il se passe quoi? T'échoues et t'apprends des choses et tu te relèves et tu recommences jusqu'à ce que tu arrives.
C'est ça.
Donc, voilà, faut pas lâcher.
Très belle philosophie. Merci.
Merci
pour ce mot de la fin. Du coup, moi, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir partagé ce petit moment de papotage et ton parcours d'écriture et celui de chasseur d'éclairs dans l'édition.
Merci.
De rien, avec plaisir. Et je remercie tous nos auditeuristes de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!